Chapitre 58. Ne pouvant détacher le regard de la pile de courriers sortis de la pochette à élastique, assis au bord du canapé, Paul était abasourdi.
Je les ai découvertes quelques semaines après que mon père a mis fin à ses jours, expliqua Jean-Luc Traskman. Je faisais des allers-retours à la villa pour ranger ses affaires et régler les problèmes de droit de succession. Ces lettres étaient au fond d'un coffre, caché dans son bureau. Postées régulièrement entre 2015 et son décès, d'un peu partout depuis le sud-est de la France. Comme vous, des pages de romans policiers. Comme vous, des lettres entourées, des « je sais ce que vous avez fait » ou encore « un jour tout le monde saura quel monstre vous êtes ».
Paul était sous le choc. Et votre père n'est pas allé voir la police ?
Apparemment non. Il avait tout conservé sans en parler à personne.
Le gendarme comprenait mieux. David Esquimet avait joué sur les deux tableaux. Il ne s'était pas contenté de se venger de Corinne en la torturant à travers ses énigmes. Il avait prévu de faire payer Caleb Traskman pour le mal fait à Julie. Peut-être même ces menaces avaient-elles contribué au suicide de l'écrivain.
Jean-Luc Traskman reprit les feuilles du manuscrit.
Ainsi, cette fin existe bel et bien. Il était allé au bout de son histoire. Tout est tellement plus clair à présent. Je dois vous dire que lors d'un de mes séjours à la villa, une quinzaine de jours avant que j'ouvre son coffre, je me suis aperçu que la maison avait été visitée. Une vitre à l'arrière avait été brisée. Un individu était entré mais n'avait visiblement rien volé. La police est venue faire des relevés qui n'ont pas mené à grand-chose. Forcément, vu l'architecture de la maison.
Pourquoi qu'a-t-elle de particulier ?
Son interlocuteur fixa longuement les feuilles pensifs avant de se ressaisir.
Peu importe. Le texte original du manuscrit inachevé, je ne l'ai pas déniché dans son grenier comme je l'ai indiqué dans la préface.
Ça, c'était pour aiguiser les fantasmes des lecteurs de Caleb. Vous savez, le vieux manuscrit qu'on sort de la poussière, du fin fond de cartons entassés, c'était beaucoup plus vendeur.
Tout était prétexte à business, songea Paul. Même la mort. Malgré son dégoût, il se contenta d'acquiescer pour inciter le fils à poursuivre.
En réalité, le paquet de feuilles était avec les lettres de menace. Mon père fonctionnait encore à l'ancienne, il détestait l'informatique. Il écrivait ses histoires à la main et n'avait aucune sauvegarde. Il faisait déjà ça quand j'étais gamin. Chaque fois qu'il terminait un chapitre, il l'enfermait avec les pages déjà rédigées dans son coffre. Je vous laisse imaginer mon état quand je suis tombé sur tout ça. Je possédais une œuvre originale de mon père, œuvre qu'il avait gardée dans le plus grand secret. Ce qui n'était pas dans ses habitudes.
D'un mouvement de tête, il désigna l'exemplaire de Paul.
Je crois n'avoir jamais lu aussi vite. Un livre dans le livre, les personnages torturés, le suspense, c'était l'une de ses meilleures histoires. Une des plus sinistres aussi. Alors quand j'ai découvert qu'il manquait le dénouement, ce fut un vrai coup de massue. C'était comme
la Joconde sans visage.
La Joconde sans visage, oui. La suite, vous la connaissez, c'est écrit dans la préface. Nombre de lecteurs m'ont reproché la fin que j'ai inventée, trop ouverte selon eux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su la décrypter. Pour imiter mon père jusqu'au bout, lui qui adorait poser des énigmes au terme de ses histoires, j'ai caché la résolution dans la toute dernière phrase du roman. Il suffit de prendre la première lettre de chaque mot la constituant, de les mettre bout à bout, et vous l'avez, votre réponse. Mais, il leva le paquet de feuilles, ma fin est très différente de la sienne dans sa construction. Enfin, je veux dire, mon dénouement est noir, certes, mais ce n'est rien à côté de celui de mon père. J'avais une chance sur deux de voir juste. Choisir le camp du bien ou celui du mal. En ce sens, je me suis bien planté.
Paul comprenait de mieux en mieux. De nouvelles pièces du puzzle s'assemblaient.
Il va donc au bout, seulement il ne range pas ses ultimes pages dans le coffre, résuma-t-il.
On pourrait se demander pourquoi, puisque vous me dites qu'il le faisait systématiquement.
Puis plus tard, il se suicide. Notre corbeau de saga est au courant par voie de presse.
On a parlé de la mort de votre père, je suppose.
Oui, bien sûr. Alors le corbeau décide de venir visiter la villa, peut-être pour tenter d'en apprendre davantage sur le sort de Julie Moscato. Il casse une vitre, fouille la maison, les papiers, les tiroirs, tombe sur ses pages avant que vous ne les découvriez vous-même, et les embarque. On les retrouve chez lui des années après.
Il y eut un long silence où chacun prenait la mesure de ses révélations.
Paul savait que ses déductions tenaient la route. Jean-Luc Trascmann, quant à lui, paraissait KO debout. Il posa une main sur son front comme en proie à une soudaine migraine. Le gendarme eut alors une idée. Il chercha quelque chose dans son téléphone avant de le tendre à son interlocuteur.
« Nous avons également saisi ces photos chez le présumé cambrioleur. Elles étaient rangées dans un album. Différents clichés de parties de cadavres, membres, nez, menton. Vous m'avez dit que votre père écumait les morgues et les musées de médecine. Ces images morbides auraient-elles pu lui appartenir ? Auraient-elles également pu lui être volées ?»
Trascmann observa rapidement l'écran et lui rendit le portable.
Il prenait des notes, il dessinait, mais il ne prenait pas de photos à ma connaissance. Ou en tout cas, pas de cette qualité-là.
Il y a une fibre artistique là-dedans. Déçu, Paul ne baissa pas les bras pour autant et désigna le paquet de courrier.
Votre père se suicide d'une balle de revolver. Vous vous découvrez ses lettres quelques semaines plus tard. Vous ne vous êtes pas dit que ces menaces pouvaient être la raison pour laquelle il s'était ôté la vie ?
Si, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit.
Alors pourquoi ne les avez-vous pas apportés chez les flics ?
Jean-Luc Trascmann sembla pris au dépourvu. Il haussa les épaules.
Ce qui était fait était fait. Mon père avait pris une décision. Le suicide était flagrant.
Il voulut tirer la pochette à lui pour en finir, mais Paul empêcha son geste.
Vous m'avez montré tout ça alors que vous n'y étiez pas obligé, reprit le gendarme. Au fond de vous, vous avez envie de savoir pourquoi il recevait ses courriers et pourquoi il a fait un choix si radical. Je me trompe ?
Pas de réponse.
Ça fait 12 ans qu'on cherche Julie Moscato. Alors je vous garantis qu'on ne va pas lâcher la piste et qu'on va remuer de fond en comble le passé de Caleb Trascmann et de tous ceux qui ont gravité autour de lui. On va fouiller la maison de Berck-sur-Mer, on va déterrer la vérité. S'il y a encore des choses que vous devez me dire, mieux vaut le faire maintenant.
Trascmann réfléchit quelques secondes à peine, observa sa montre, se leva et pointa le couloir du pouce.
Laissez-moi 2 minutes pour éteindre mon ordinateur et les lumières.
Rouler de nuit ne vous fait pas peur, je présume.
Paul secoua la tête.
Dans ce cas, je vous emmène sur la côte, à la villa. C'est à 2 heures d'ici environ. Vos photos de cadavres, là. Je ne vous ai pas tout dit. J'en ai déjà vu de ce genre chez mon père. Et ce n'est pas impossible que votre corbeau les ait embarqués le jour de son intrusion.
Il fixa Paul de son regard le plus sombre.
Vous allez vraiment comprendre quelle espèce de tordu était Caleb Trascmann.